Vendredi 12 janvier 2018, Hélène Denis qui vous accompagne, c'est l'émission Le quotidien des quotidiens. Beaucoup de pluie ce matin, ça a fondu comme neige au soleil, mais là c'est comme neige neige à la pluie. Oui, c'est vrai, ça sent le printemps, mais il faut se méfier. Parce
on se fait toujours avoir à chaque année.
Il annonce une bonne bordée de neige à partir de ce soir. Du Grésil, ça va se transformer en neige, 10 à 15 cm. Oui, vous êtes content. Êtes-vous un sportif d'hiver, vous, Mathieu?
Je suis pas spécifiquement d'hiver, mais...
Vous avez rangé votre scooter?
Oui.
Oui. Et vous venez comment travailler à pied?
Je marche.
Oui?
Oui, je passe à travers, principalement, pas principalement, mais j'aime bien terminer ma marche par le parc La Fontaine.
Ah oui.
C'est très plaisant.
Avez-vous des crampons?
Non. Et là, j'aurais dû mettre mes bottes de pluie ce matin.
Oui.
Parce que, voilà.
C'est salissant.
Ben, c'est surtout mouillé.
Oui, oui, c'est ça.
Il y a beaucoup d'eau qui a fondu et voilà, j'ai les pieds mouillés.
Oui, beaucoup d'eau qui a fondu.
Est-ce que c'est ce que j'ai dit?
Oui.
Ah, bon.
Mais c'est rigolo. Alors, je vous laisse aller, mon cher.
Oui, le 12 janvier, c'est la journée pour embrasser un roux. Kiss a ginger day.
Ah oui, a ginger day. Eh bien.
Mais voilà,
Est-ce qu'il y a des roux au travail avec nous? Non, hein?
Non.
Non, des Auburn, couleur feu. Mais des roux, on n'en connaît pas ici à Canal M,
alors,
malheureusement.
Si vous voulez un bec sur la joue, passez voir nos installations.
Attention à ce que vous dites!
En 1903, à Paris, première réunion de l'Académie Goncourt. Le premier prix sera attribué le 21 décembre à Eugène Torquet, dit John-Antoine No. En 1910, aux États-Unis, une loi interdisant la traite des blanches entre en vigueur. 1912, à Toronto, le premier numéro du Financial Post paraît. 1913, les derniers omnibus à chevaux disparaissent au profit des autobus. Ça, c'était 1913. 1926, l'Institut Pasteur annonce la découverte d'un sérum contre le tétanos. Albert Gay, en 1951, est pendu à Montréal pour le meurtre de 23 personnes dans la destruction par une bombe d'un avion. Par la destruction par une bombe d'un avion. C'est une drôle de formulation, je vous l'accorde. Mm-hmm. 1964, déclenchement de la révolution de Zanzibar qui devient république et dont le sultan est banni. 1967, toujours un 12 janvier et non pas juin comme hier. Dans les désordres de la révolution culturelle en Chine, l'armée s'engage à soutenir Mao Tse-tung. 1981, la série Dynastie mettant en vedette Joan Collins débute sur la chaîne de télévision ABC.
Méga succès.
Oui, que je n'ai jamais écouté.
Ben moi non plus. Quelques bribes, parce que j'avais une sœur qui aimait bien cette série pour rigoler. Là, c'est comme un plaisir coupable. Et je connais même une personne qui a appelé sa fille... c'est quoi le nom du personnage?
Là, ouais,
parce qu'il y avait Blake, puis il y avait...
Runner? Non, excusez-moi.
Je vais faire une recherche.
D'accord. 1998, 19 pays européens signent le premier instrument du droit international interdisant le clonage d'êtres humains. Les homosexuels en 2000 sont acceptés dans l'armée en Grande-Bretagne. Toujours en 2000, devant un tollé, l'Université du Québec à Montréal renonce à un contrat d'exclusivité avec Coca-Cola. Au Nouveau-Brunswick en 2008, à Bathurst, 7 basketteurs âgés de 15 à 17 ans et une enseignante périssent dans la collision de leur véhicule avec un camion. En 2005, la Maison-Blanche annonce que la mission de recherche d'armes de destruction massive en Irak a terminé ses travaux sans avoir trouvé la moindre trace d'armes prohibées. Et en 2010, séisme à Haïti, un puissant tremblement de terre de 7,0 degrés sur l'échelle de Richter sème la destruction à Haïti.
Tragédie
exact.
Terrible. On se remet à peine en 2018.
Oui. Oui, en fait, oui. Exact. Pour ce qui est des naissances, un 12 janvier en 1628, Charles Perrault, homme de lettres français qui était né en 1700... non, qui est décédé, pardon, en 1703. Jack London, écrivain américain, est né un 12 janvier 1876. Tim Horton, défenseur de hockey sur glace et homme d'affaires canadien, qui est évidemment le fondateur de la chaîne de restaurants Tim Horton, est né un 12 janvier 1930. Hélène Rioux, romancière québécoise, est née en 1949. Et François Girard, réalisateur et scénariste québécois, est né un 12 janvier 1963. Et pour ce qui est
ah,
des
c'est son anniversaire aujourd'hui, oui, aujourd'hui. Puis son film le plus récent sort aujourd'hui.
C'est coïncidence.
Hochelaga, Terre des Ânes.
Exact.
Et oui.
1700, pour ce qui est des décès, pardon, Marguerite Bourgeois décède un 12 janvier 1700. On rappelle que Marguerite Bourgeois est une religieuse française. Et Agatha Christie aussi décède en 1976. Et l'acteur, producteur et réalisateur français Claude Berry, lui qui était né en 1934, nous quitte un 12 janvier 2009. Voilà pour les éphémérides d'aujourd'hui.
Alors Mathieu,
oui.
Pour enrichir votre culture
ah, oui,
dynastienne, si je peux dire, c'était le personnage de... Linda Evans, Christelle, et ah, je connaissais une fille...
qui avait été nommée...
Non, mais qui m'avait dit, si j'ai une fille, elle s'appellera Christelle, et si j'ai un gars, il s'appellera Blake, parce que c'était le couple, le couple des héros, si je peux dire, dans Dynasty, puis la poffine, c'était Joan Collins, Alexis.
Je sais ce que je vais faire en fin de semaine, je vais écouter toute la série de Dynasty. On pourra s'en parler davantage la semaine
prochaine.
J'ai
tellement hâte.
Moi aussi.
À la une de la presse, teneur en plomb, la Californie s'attaque au sirop d'érable. La majorité des producteurs québécois devra changer ses équipements pour répondre aux normes de l'État américain. La chronique d'Yves Boisvert, Valérie Plante et La vie en rose. Exclusif casier judiciaire pour possession simple de cannabis, Ottawa tenté par la Mistie. Pose chic, la mode est au changement. L'année 2018 sera flamboyante et authentique. Les érables ne coulent pas encore, mais plusieurs producteurs de sirop travaillent fort dans leurs érablières ces jours-ci. C'est que les acériculteurs du Québec devront pratiquement éliminer le plomb de leur équipement en vertu d'une entente signée en Californie. Les érablières qui ont plus de 20 000 entailles doivent faire ce travail d'ici la fin de l'année, sans quoi leur sirop ne pourra plus traverser la frontière. En 2013 et 2014, un organisme californien, la Mathieu Environmental Justice Foundation, s'est attaqué au sirop d'érable après avoir découvert qu'il dépassait les normes de l'État en teneur de plomb. La Californie ne tolère que 11 microgrammes de plomb par kilo de sirop. Ici, Santé Canada permet 500 mcg ou 500 ppb pour la même quantité. L'industrie québécoise s'est elle-même imposée une limite de 250 ppb. Le plomb est naturellement présent dans la sève, mais l'équipement des acériculteurs qui en contient peut en transmettre au sirop durant la transformation. La Mathieu Environmental Justice Foundation a déposé deux poursuites. Elle s'attaquait aux grandes chaînes comme Costco ou Walmart, mais ciblait aussi des fournisseurs de sirop du Québec et des États-Unis. La coopérative Citadel et les industries Bernard et Fils, toutes deux situées en Beauce, étaient sur la liste des contrevenants, entre guillemets. Pour régler le dossier, les industriels québécois ont convenu de revoir le matériel utilisé en essériculture selon un calendrier précis. Chaque industrie a ses enjeux. Il faut s'adapter aux demandes de la clientèle et être très transparent, dit Daniel Dufour, directeur général du Conseil de l'industrie de l'érable. Canadien reconnu coupable de possession simple de marijuana après la légalisation, l'amnistie générale. Le gouvernement Trudeau jongle plus que jamais avec l'idée d'accorder une amnistie générale aux Canadiens qui ont été reconnus coupables de possession simple de marijuana dans le passé, alors que plusieurs États américains, dont la Californie, ont déjà retenu cette option au moment de légaliser le cannabis sur leur territoire. Pour l'heure, la priorité du gouvernement Trudeau est de mener à bien son projet de loi visant à légaliser la marijuana au plus tard le 1er juillet, avec le concours des provinces et des municipalités. Le projet de loi C-45 a été adopté par la Chambre des communes en novembre dernier par un vote de 200 à 82 et il a été expédié au Sénat pour qu'il en fasse l'étude à son tour. Mais dès que cette mesure entrera en vigueur et que la vente et la distribution du cannabis seront une réalité au pays, Ottawa entend bien statuer sur le cas de centaines de milliers de personnes qui traînent un casier judiciaire parce qu'elles ont été arrêtées et condamnées pour possession simple de marijuana. Selon certaines estimations, on compte pas moins de 600 000 Canadiens qui ont un casier judiciaire pour possession de cannabis, un boulet qui peut les empêcher de décrocher un emploi ou encore de voyager à l'étranger. Famille de Laval accusée de traite de personnes, la GRC et trois policiers punis pour une enquête incomplète et bâclée. Trois policiers de la Gendarmerie royale du Canada, GRC, qui avaient fait accuser une famille lavalloise de traite de personnes en 2006, viennent d'être condamnés à lui verser près de 700 000 $ en dommages pour une enquête incomplète et bâclée, a tranché la Cour supérieure. Dépeints comme des exploiteurs lors d'une conférence de presse tenue par la GRC en mai 2007, les membres de la famille de Nikan Manoukian, originaire du Liban, s'étaient retrouvés sous les projecteurs à cause de l'aide domestique d'origine éthiopienne qui vivait sur leur toit sans salaire depuis quelques mois. Cinq agents de la GRC et six policiers du service de police de Laval, accompagnés d'un agent des services frontaliers, avaient débarqué chez eux en janvier 2006 dans le cadre d'une enquête qui a mené aux toutes premières accusations de traite de personnes déposées au Canada. La famille Manoukian avait embauché l'aide familiale Sene Tafes Maney au Liban en 1998 et la payait à l'époque 150 $ par mois pour s'occuper des enfants et des tâches domestiques. L'employée éthiopienne, qui ne parlait ni français ni anglais, avait ensuite suivi la famille Manoukian au Canada lorsque celle-ci avait immigré en 2004. Elle ne pouvait cependant pas y être rémunérée puisque le ministère de la Citoyenneté et de l'Immigration lui avait refusé son visa. La GRC avait affirmé dans sa conférence de presse très médiatisée que Mme Maney n'avait même pas le droit d'utiliser le téléphone et était forcée à travailler 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, alors que ce n'est pas ce que l'enquête révèle, écrit la juge France Duluth dans une décision de 89 pages rendue cette semaine publique plus de 10 ans après le début du recours en dommages. Selon la preuve, l'aide domestique allait même occasionnellement à la tabagie avec des membres de la famille Manoukian pour acheter des cartes d'appel pour pouvoir appeler son fiancé en Éthiopie. Dans leur enquête, les policiers avaient aussi fait fi du fait que la famille Manoukian avait payé 5 000 $ en frais d'avocat pour régulariser le statut de leur aide domestique et lui permettre de travailler au Canada. Plus de 900 clients de la SAQ ont été floués dans la vague de fraude qui a ciblé la carte Inspire l'an dernier, un problème qui a finalement été résolu au bout de quelques mois. À partir de décembre 2016, des dizaines d'utilisateurs du populaire programme de fidélité se sont fait dérober des points récompenses à leur insu. Des malfaiteurs les utilisaient pour se procurer des vins ou des spiritueux. Les montants variaient en général entre 40 $ et 100 $, mais certains ont perdu des sommes plus importantes. Lorsque les premiers cas ont été mis au jour, en février dernier, la SAQ avait dénombré une quinzaine de victimes, sauf que dans les semaines suivantes, elle a été inondée de plaintes. Ces dédommagements ont coûté des dizaines de milliers de dollars à la SAQ, révèlent des documents obtenus par la presse. Le problème a finalement été endigué au printemps. Un pionnier de la recherche médicale au Québec et l'un des scientifiques les plus primés de sa génération est décédé vendredi dernier. Jacques Genet, notamment connu pour avoir fondé l'Institut de recherche clinique de Montréal, s'est éteint à 98 ans. Né à Montréal en 1919, le Dr Genet a réalisé des travaux cruciaux sur l'hypertension et contribué à ce qu'elle soit traitable par la médecine de première ligne. Il a signé plus de 700 articles scientifiques ainsi que 4 ouvrages, reçu 12 doctorats honorifiques et obtenu une myriade de prix, dont le tout premier prix Marie-Victorin et le prix Armand Frappier. Il était aussi compagnon de l'Ordre du Canada et grand officier de l'Ordre national du Québec. Et l'échangeur Turcot sera presque complètement fermé durant toute la fin de semaine. Il s'agit du premier d'une série de 20 ou 25 week-ends d'entraves majeures annoncées le mois dernier par le ministère des Transports du Québec qui vise à permettre la démolition de plusieurs structures routières mises hors service dans le cadre du chantier de construction du nouvel échangeur Turcot dans le sud-ouest de Montréal. La route 136 entre l'échangeur et le centre-ville de Montréal sera complètement fermée à la circulation à partir de minuit, ce soir, jusqu'à 5 heures lundi matin, et ce, dans les deux directions. Conséquemment, les accès à la route 136 à partir des rues de l'Hôtel de Ville et Saint-Antoine, de même que les bretelles de l'échangeur Turcot, reliant l'autoroute 15 à la route 136, seront aussi fermés pour toute la fin de semaine. De plus, une portion de l'autoroute 20 en direction ouest sera fermée à partir de l'échangeur Turcot jusqu'à l'entrée du boulevard Saint-Anne-de-Bellevue, près de Montréal-Ouest.
La chanson « Divine Idylle » tirée de l'album « Divine Idylle » paru en 2007, c'était Vanessa Paradis.
En une du Devoir de ce vendredi 12 janvier, on voit une photo de Charles Dutoit. Agression sexuelle, six autres musiciennes dénoncent le chef Charles Dutoit. Mascouche a péché par ignorance, une prière ne transforme pas un centre culturel en lieu de culte, rappelle la Cour supérieure dans un jugement rendu contre la municipalité. Liberté d'importuner, entre guillemets, la galanterie à la française, entre guillemets, fait des pas. Autre mer. C'est bien fait débat. Outre-mer. La chronique de José Blanchette, mettre la hache dans le système et rêver un ordre nouveau. analyse coupé, point d'exclamation, Daniel Day-Lewis interprète son ultime rôle dans le film Le fil caché. On voit une photo d'une scène de film, de ce film, Le fil caché, de Paul Thomas Anderson avec Daniel Day-Lewis. Et une facture impressionnante, les députés fédéraux dépensent une petite fortune en frais d'impression pour communiquer avec leurs électeurs, dis-je bien. Six autres femmes affirment avoir été agressées sexuellement, dont deux à Montréal par le chef d'orchestre Charles Dutoit dans une enquête publiée jeudi par Associated Press. Ces nouvelles allégations s'ajoutent à celles révélées par l'agence de presse en décembre dernier. Les nouveaux témoignages recueillis par les journalistes Jocelyn Jecker et Jenny Haar concernent des agressions sexuelles, dont un viol perpétré sur une période de 4 décennies. À partir de la fin des années 1970 au Canada, aux États-Unis et en France. Deux des agressions auraient eu lieu à Montréal alors que M. Dutoit dirigeait l'Orchestre symphonique de Montréal. Le Devoir n'a pas pu confirmer ces allégations de manière indépendante. Par l'entremise de son avocat, Charles Dutoit a nié catégoriquement et complètement ces nouvelles accusations et il s'est dit particulièrement horrifié que quelqu'un l'accuse de viol. La direction de l'OSM a rappelé qu'une enquêteuse externe a été mandatée pour passer sous la loupe les années Dutoit, qui a été directeur artistique de l'OSM de 1977 à 2002. Il a démissionné au milieu d'un conflit avec les musiciens qui l'accusaient ouvertement de harcèlement psychologique. Les Québécoises Mary Lou Bazaraba et Pauline Vaillancourt font partie des femmes qui accusent Charles Dutoit d'agression sexuelle, accusation que rejette le chef d'orchestre. Les nouvelles présumées victimes disent avoir été outrées lorsque M. Dutoit a nié les allégations de 3 chanteuses d'opéra et d'une musicienne qui soutiennent qu'il les a agressées sexuellement de 1985 à 2010 dans un article publié par AP, donc AP qui signifie Associated Press. Rappelons que 8 orchestres d'envergure ont rompu leur lien avec lui et qu'au moins 2 ont lancé leur propre enquête depuis les allégations de décembre. Après s'être fait refuser son premier choix pour un nouveau nom en décembre dernier, l'équipe de Nicodère a annoncé jeudi qu'elle se nommera désormais Ensemble Montréal. Ce nouveau nom reflète qui nous sommes, c'est-à-dire le parti de tous les Montréalais et Montréalaises, un parti ouvert à la diversité qui veillera à ce que les intérêts de l'ensemble des citoyens soient défendus, a déclaré le chef de l'opposition à l'Hôtel de Ville, Lionel Pérez. Le ministère des Transports du Canada a levé jeudi la limitation de vitesse temporaire dans le golfe du Saint-Laurent imposée en août aux navires de 20 mètres et plus afin de protéger les baleines noires de l'Atlantique Nord, victimes de nombreuses collisions. Le ministre fédéral des Transports, Marc Garneau, a expliqué qu'aucun représentant de cette espèce menacée n'avait été aperçu dans la zone visée par la limitation de vitesse au cours des dernières semaines. Le ministère a levé la limitation afin de permettre aux navires de préserver leur manœuvrabilité dans les conditions hivernales et pour assurer la sécurité des exploitants qui circulent dans les eaux canadiennes. Les nouvelles exigences du Programme fédéral d'emploi Été Canada soulève une levée de boucliers au sein de diverses organisations religieuses embauchant des étudiants l'été venu. La Conférence des évêques du Canada, CCCB, a ajouté sa voix au tollé jeudi et considère que l'obligation d'appuyer les droits reproductifs des femmes privera de subventions une foule d'organismes sans but lucratif qui offrent des services dans les communautés. Cette nouvelle politique entre directement en conflit avec le droit à la liberté de religion et de conscience qui est lui aussi consacré par la Charte, plaident les évêques du Canada d'avis que de nombreuses organisations ne peuvent appuyer les principes exigés en vertu du nouveau programme. Lors d'une activité publique à Hamilton, le premier ministre Justin Trudeau s'est défendu le 9 janvier en précisant que la nouvelle mouture du programme n'était en rien incompatible avec la mission de plusieurs organisations religieuses, mais seulement avec celle dont la mission explicite est de restreindre les droits des femmes en leur retirant le droit à l'avortement ou le droit de contrôler leur propre corps. La totalité du butin du spectaculaire braquage au Ritz à Paris a été retrouvée, selon une source proche du dossier jeudi, au lendemain de l'interpellation de trois malfaiteurs restés bloqués dans le palace. En revanche, deux de leurs complices étaient toujours activement recherchés. Une première estimation avait fait état de plus de 4 millions d'euros de bijoux et de montres de luxe dérobés mercredi soir dans le mythique hôtel de luxe de la place Vendôme, où se concentrent célèbres joailleries et horloger de luxe. Une source policière affirmait jeudi qu'une partie du butin avait été retrouvée, éparpillée lors de l'interpellation de trois des cinq braqueurs présumés, intervenus mercredi. Un de leurs deux complices, qui aurait réussi à partir, avait perdu dans sa fuite une sacoche contenant des bijoux et des montres, selon cette même source. Littérature partisane, l'imprimerie du Parlement ne chôme pas. Les libéraux de Justin Trudeau n'ont pas seulement détrôné les conservateurs lors de l'élection de 2015, ils leur ont aussi volé la palme des députés recourant le plus aux photocopieuses de la Chambre des communes pour se vanter auprès de leurs commettants. Pour l'année 2016-2017, les frais d'impression totaux de la Chambre des communes se sont élevés à 5,5 millions de dollars pour une moyenne d'environ 16 000 dollars par élu. Mais voilà, plusieurs dépassent largement ce seuil. Un décompte effectué par Le Devoir indique que 24 députés ont dépensé à ce chapitre plus de 30 000 $ dans l'année. Les trois quarts d'entre eux, 18, sont libéraux, 4 sont néo-démocrates et 2 sont conservateurs. Ici Hélène Denis, vous écoutez l'émission Le quotidien des quotidiens, édition du 12 janvier 2018. Restez avec nous dans un petit moment, une chanson et aussi la revue de presse du Journal de Montréal.
Lost my name in a Tokyo kiss. I lost my name. I lost my name in a Tokyo kiss. Thank you. again. Begin to remember my name. Oh, please, please, please kiss me again. When I forget my name again. Oh, kiss me one time. Oh, kiss me two times. Mm-hmm. Kiss me three times.
Mike a quitté.
I lost my name in a Tokyo kiss. I lost my name. I lost my name in a Tokyo kiss. Tokyo kiss.
Cette chanson, c'était Tokyo Kiss, chantée par Arthur H.
En une du Journal de Montréal, elle retrouve son père dans la rue. Procès de Lac-Mégantic, voici la lettre de suspension de Harding qui a été cachée au jury. La lettre que le jury n'a pas vue. Tom Harding avait été suspendu en 2008 parce qu'il n'avait pas mis de frein à main sur un terrain. Le 2 juillet 2008, Tom Harding et l'ingénieur avec qui il travaillait ont immobilisé 58 wagons sur une voie de liaison à Saint-Jean-sur-Richelieu. On apprend dans une lettre obtenue par le Journal de Montréal que Harding, qui agissait comme chef de train, n'avait mis aucun frein à main et pas suffisamment de frein à air sur le convoi qui est allé percuter un autre train. Les conséquences de cette collision auraient pu menacer votre sécurité, celle de votre ingénieur, d'un employé de Rail Power Technology et des citoyens innocents de Saint-Jean, a notamment écrit John W. Schultz, qui était alors vice-président transport à la MMA. La Couronne souhaitait déposer cette lettre et la suspension en preuve pour montrer au jury composé de 8 hommes et 4 femmes que Tom Harding connaissait le règlement sur la sécurisation des trains, ce qu'il n'a jamais nié, même s'il ne l'a pas parfaitement respecté le soir du 5 juillet 2013. Cette lettre a été exclue de la preuve par le juge Gaétan Dumas. Il considérait qu'elle serait trop préjudiciable envers M. Harding, accusé de négligence criminelle causant la mort de 47 personnes. Il a expliqué au jury qu'il devait juger les actions de M. Harding le jour des événements. Maintenant que le jury est séquestré, l'ordonnance de publication a été levée. Harding a donc purgé 5 jours de suspension sans solde après ces événements et a été mis en probation pour 1 an. S'il ne sécurisait pas bien ses trains de nouveau, il purgerait 5 autres jours de suspension en plus de nouvelles sanctions, apprend-on dans la lettre. Presque 5 ans jour pour jour après sa suspension, Tom Harding a de nouveau arrêté un train dans une pente à Nantes. Cette fois, il avait mis assez de freins à air, mais pas suffisamment de freins à main. Après un incendie dans la locomotive de tête, le train a dévalé une côte avant de dérailler et d'exploser au centre-ville de Lac-Mégantic le 6 juillet 2013. Elle retrouve son père après 10 ans. Cathy Beauchemin Daviaud avait presque perdu espoir de revoir son père disparu sans laisser de traces il y a 10 ans pour vivre dans la rue. Jusqu'à ce qu'elle tombe sur une photo de lui dans le journal la semaine dernière et décide de repartir à sa recherche. Hier, entre les larmes et la joie, elle a enfin retrouvé celui qu'elle appelle son idole. J'ai appelé les postes de police, les prisons, les hôpitaux, j'ai fait du porte-à-porte, mais il était introuvable, relate la femme de 29 ans. En ouvrant le journal le 3 janvier, elle est tombée sur un reportage racontant l'histoire de sans-abri qui ont décidé de rester dans la rue à Montréal malgré la grande vague de froid. Normand Beauchemin était l'un d'eux, l'homme de 50 ans au visage émacié, a choisi de vivre en nomade à sa sortie du pénitencier en 2007. Il dort maintenant dans une boîte en carton dans un coin caché de la ville. L'auteur de ces lignes, donc le journaliste Benoît Filly, lui a donné rendez-vous à la fille hier matin au refuge de Open Door sur le bord, le boulevard René-Lévesque, où le sans-abri a l'habitude d'aller manger. Son père, à l'intérieur, n'avait aucune idée de ce qu'il attendait. Quelqu'un m'a dit « Il y a une belle fille qui veut te voir ». Je pensais qu'il me niaisait, dit-il, avec un sourire. Je suis sortie, mais je ne l'ai pas reconnue sur le coup. Une seconde plus tard, il sautait dans les bras de sa fille en larmes. Normand s'est ensuite rendu chez sa fille à Saint-Hyacinthe, où il a passé du temps avec ses quatre petits-enfants, dont deux qu'il n'avait jamais rencontrés. Des problèmes de communication seraient à l'origine d'un deuxième incident qui aurait pu mener à une catastrophe aérienne à l'aéroport de San Francisco impliquant des vols d'Air Canada selon les autorités américaines. Le 22 octobre dernier, un Airbus 320 en provenance de Montréal se trouvait à moins de 2,1 km de la piste d'atterrissage lorsque le contrôleur aérien a ordonné à l'avion de ne pas atterrir en raison de la présence d'un autre appareil sur la piste. Puisque l'équipage d'Air Canada ne répondait pas, le contrôleur a répété 6 fois l'ordre de modifier sa trajectoire. Ces ordres n'ont pas été entendus. Le pilote avait finalement atterri sans causer de dommages. Le pilote a déclaré avoir eu l'autorisation d'atterrir avant une modification de la fréquence radio, sans préciser qui avait changé de canal ni pourquoi. La piste en vue était libre, j'ai atterri. C'est après que nous avons découvert que la tour avait essayé de communiquer avec nous, mais nous n'avons rien entendu, peut-on lire dans le rapport d'enquête. Des intéressés pour les pâtisseries de Gascogne, le chef pâtissier Christian Faure et l'entreprise portant son nom ont annoncé hier leur intérêt à racheter ce qu'il reste de l'entreprise fondée par Francis et Lucie Cabane en 1952. Nous ne pouvons qu'espérer que l'œuvre de Francis Cabane, fondateur des pâtisseries de Gascogne, aura toujours sa place à Montréal et ne sera pas remplacée par une pâle copie industrielle. Les détails de l'offre faite au syndic n'ont pas été révélés. Le journal dévoilait jeudi que les fondateurs de l'entreprise familiale avaient été forcés de poursuivre leur propre fils en novembre afin de récupérer des sommes qui leur étaient dues. Le gouvernement haïtien et ses partenaires internationaux ont lancé hier un appel de financement à hauteur de 252 millions de dollars afin de répondre aux urgences humanitaires pour l'année 2018. En 2017, Haïti a été épargné par les catastrophes naturelles qui ont été dévastatrices pour certaines îles de la Caraïbe, mais le pays reste en proie à une situation humanitaire inquiétante car les conséquences des catastrophes passées n'ont toujours pas été résorbées. 8 ans après le séisme qui a tué plus de 200 000 personnes et ravagé Port-au-Prince, plus de 38 000 sinistrés vivent encore dans des camps de fortune. Par ailleurs, 1 an après le passage de l'ouragan Matthew sur le sud, plus d'un million de citoyens ont toujours besoin d'assistance. De plus, les expulsions d'Haïtiens de la République dominicaine se poursuivent à un rythme effréné. Près de 230 000 personnes ont besoin d'assistance pour réintégrer leur communauté. L'Équateur a annoncé avoir naturalisé Julian Assange, le créateur australien de Wikileaks, réfugié depuis 2012 dans son ambassade à Londres, afin de tenter de lui obtenir un statut diplomatique et trouver une solution à cette situation de plus en plus délicate pour le pays andin. Cette naturalisation a été accordée le 12 décembre 2017. Le gouvernement équatorien a le droit d'accorder la nationalité équatorienne à la personne qu'il protège et faciliter ainsi son intégration au sein du pays qui le reçoit, a dit M. Espinoza, plutôt Madame Maria Fernanda Espinoza, qui est chef de la diplomatie équatorienne. Le fabricant haut de gamme de soutien-gorge Rigby & Peller a perdu son statut de fournisseur officiel d'Élisabeth II pour avoir eu l'indiscrétion de révéler les dessous de la lingerie royale, affirme la BBC hier. A affirmé la BBC hier, aurais-je dû lire, mais c'était écrit ainsi. Selon la BBC, cette décision est intervenue à la suite de la publication d'un livre titré « Tempête dans un bonnet D » par June Kenton, 82 ans, qui avait la charge des essayages de soutien-gorge de la reine. Madame Kenton a affirmé qu'il n'y avait rien dans ses mémoires susceptible d'offenser la famille royale. Elle y décrit sa première session d'essayage dans les années 1980, avec une Élisabeth II à moitié dévêtue, et dévoile une anecdote racontée par la mère de la reine. Le palais de Buckingham lui a annoncé il y a 6 mois qu'il n'avait pas aimé le livre et avait l'intention de retirer son mandat royal à Rigby & Peller, a-t-elle expliqué à la BBC.
Thank you.
un grand classique de Pagliaro, chanté ou interprété ou revisité par Alexandre Desilets, M'Lady ou My Lady.
Les journaux régionaux maintenant, dans le droit, sous la plume de Louis-Denis Ebacher, Alzheimer laissé seul pendant 14 heures. Tout n'est pas rose dans le secteur privé de la santé qui souffre lui aussi de la pénurie de main-d'œuvre observée dans le système public. Un couple de Chelsea le constate avec désarroi depuis 6 mois alors qu'une de leurs proches atteinte de la maladie d'Alzheimer a été laissée à elle-même pendant 14 heures dans sa chambre d'une résidence pour personnes âgées de Gatineau. La vie de Penelope Ellis, 76 ans, a basculé en mai dernier à la suite d'une crise cardiaque déclenchant chez elle la maladie d'Alzheimer. D'une personne âgée autonome se rendant à l'église 4 fois par semaine, elle est devenue une toute autre personne. Résidente au château Sims, S-Y-M-M-E-S, dans le secteur Elmer, elle est passée de l'étage des personnes autonomes à celui des gens incapables de subvenir à leurs besoins de base. Tout s'est bien passé pendant les 2 premières années, dit sa belle-sœur Colleen Gifford. Elle résidait déjà à cet endroit, alors nous avons décidé d'y rester. L'affreuse maladie a fait ses ravages, désorientation, perte de mémoire et incontinence. Entretenant des doutes sur les soins que Mme Ellis recevait, la famille a placé 2 caméras dans la chambre au sud de la direction du château Sims. Ces caméras s'activent lorsque des mouvements sont décelés. C'est à ce moment que nous avons constaté qu'elle avait passé une nuit entière seule, sans surveillance. Nous l'avons trouvée le lendemain dans ses excréments. Il y en avait partout. Et personne n'était intervenu pendant tout ce temps, raconte Mme Gifford. Selon elle, Mme Ellis est restée seule de 20h à 10h une nuit d'octobre. Le personnel est senti faire des vérifications toutes les 2 heures, déplore-t-elle. Elle aurait par ailleurs été laissée à elle-même dans un lit et des vêtements souillés. Ma femme a dû la laver le lendemain et nettoyer la chambre. À qui de faire le travail, demande le frère de la résidente, Ned Ellis. La famille craint que d'autres situations semblables se soient produites. « J'ai l'impression que je dois former le personnel quand j'y suis », indique Mme Ellis. Il nous a fallu engager une préposée à temps partiel pour s'assurer que Penelope, reçoive plus d'aide. Depuis le mois de juin, la famille a écrit à plusieurs reprises à la direction pour se plaindre du manque de propreté dans la chambre. La directrice générale de la résidence, Marie-Andrée Mallette, dit être au fait de la situation et mentionne qu'un plan d'intervention a été élaboré avec la famille. « Mon enquête n'est pas terminée, mais nous prenons cette situation au sérieux », explique Mme Mallette. « Si vous appelez partout, vous constaterez que c'est un domaine où il y a pénurie de main-d'œuvre. C'est ainsi partout dans le domaine de la santé. Il arrive qu'on n'est pas capable de remplacer les employés qui sont absents en congé de maladie. Je dis souvent aux familles que je n'ai pas d'arbre à l'extérieur qui fait pousser des préposés. Par ailleurs, plusieurs préposés sont de nouveaux arrivants qui ne comprennent pas assez bien la langue du pays d'accueil, selon Mme Gifford. Le secteur privé ne devrait pas s'occuper des cas comme ceux-là, affirme Mme Ellis. On constate en tant que client anglophone qu'il existe une barrière de la langue avec les employés. Je comprends, dit Mme Mallette, que l'on a parfois à gérer différentes cultures, des gens qui n'ont pas la même approche avec les résidents. Le couple affirme cependant pouvoir communiquer adéquatement avec la direction. Marie-Andrée Mallette admet que personne n'est parfait, mais qu'il n'existe pas 1001 solutions. Je comprends très bien leur frustration, mais ce matin, Penny est bien et de bonne humeur. La directrice explique que les résidences privées sont comparées aux soins à domicile aux yeux du gouvernement et que les subventions ne sont pas les mêmes que dans le secteur public. Brochu dans la tribune, le centre de tri déborde. Le froid polaire des dernières semaines a nui aux travailleurs, au travail des employés de Récup Estrie. Ceux-ci ont dû prendre plus de pauses pour se réchauffer, ce qui occasionne aujourd'hui un surplus d'entre 800 et 1000 tonnes de matière qui est entreposée derrière la bâtisse. Comme les portes sont ouvertes, le froid entre dans le centre, explique la directrice générale de Récup Estrie. Il faut que les employés prennent au moins 10 minutes par heure pour se réchauffer. Les quarts d'heure de travail ont été productifs à environ 50 %, ce qui veut dire que sur un quart de travail de 8 heures, les employés en travaillaient 4. Les mouvements étaient nombreux dans le centre de tri jeudi alors que les camions ne cessaient d'entrer. Du temps supplémentaire est même prévu afin de reprendre le temps perdu. On a dû mettre de côté une bonne partie de la collecte qui rentre au centre de tri, dit la directrice générale, Mme Sepa Zalari. On est en pleine opération actuellement. En général, on finit à 17 heures, mais vendredi, ce sera à 20 heures. On va prendre le dessus. Dans la tribune, toujours sous la plume d'Alain Goupil, cette fois, le directeur général de Centraide, Estrie, Claude Forgue, tire sa révérence pour se lancer de nouveau en politique. Après 37 ans à la barre de l'organisme, celui-ci quittera ses fonctions en juin afin de se porter candidat à l'investiture du Parti québécois dans Saint-François en vue des élections générales du mois d'octobre. Âgé de 67 ans, Claude Forgue n'en sera pas à ses premiers pas sur la scène politique québécoise. Lors du scrutin de 2007, il avait défendu les couleurs du Parti québécois dans la circonscription de Sherbrooke face au chef du Parti libéral, Jean Charest. Son nom avait alors fait le tour du Québec lorsque Radio-Canada l'avait déclaré élu, avant de se rétracter une heure et demie plus tard après avoir constaté que le vote par anticipation n'avait pas encore été dépouillé. 10 ans plus tard, les gens m'en parlent encore, rigole M. Forgue au sujet de cette élection prématurée. Dans le Nouvelliste, Marc Rochette, l'accord à l'ABI, colère et inquiétude, Bécancourt. C'est un réveil brutal qui attendait jeudi matin le millier de travailleurs de l'aluminerie de Bécancourt, alors qu'en pleine nuit, à 3 heures du matin, la direction avait décrété un lock-out après le rejet de l'offre finale et globale par plus de 80 % des syndiqués la veille. Ceux-ci ont donc été confinés à l'extérieur de l'usine, se massant rapidement près des roulottes déjà installées depuis un certain temps autour du site, faisant le va-et-vient jusqu'aux portes de l'aluminerie et se réchauffant autour d'un feu. Pour l'occasion, la rue Pierre-Thibault a rapidement été transformée en stationnement improvisé et des véhicules de la Sûreté du Québec y circulaient régulièrement. Depuis le matin, les intervenants du milieu souhaitaient un retour rapide au dialogue en évoquant l'impact majeur d'un conflit chez cet employeur. Or, l'intervention du conciliateur-médiateur n'aura pas tardé, celui-ci ayant convoqué les parties pour une rencontre en après-midi. « C'est un conflit privé. On souhaite un règlement le plus tôt possible. C'est pour ça qu'on met le ministère du Travail à la disposition des deux parties. C'est le cas actuellement. Il y a un conciliateur-médiateur qui est au dossier et 19 rencontres de conciliation ont déjà eu lieu », a indiqué au Nouvelliste Florent Tanlet, attaché de presse de la ministre responsable du Travail, Dominique Vien. Selon son porte-parole, ce sont les événements survenus au cours des dernières heures qui ont provoqué cette rencontre des parties patronales et syndicales en présence du conciliateur au dossier, pour, dit-il, continuer à essayer de s'entendre. Le médiateur suit la situation de près. Ce qu'on peut dire aux deux parties, c'est de négocier le plus possible parce qu'il faut en arriver à une entente le plus tôt possible. On veut que ça se règle vite, autant pour l'employeur que pour les employés, a fait savoir M. Tanlet. La section locale 9700-9700 du syndicat des métallos a dénoncé le lock-out décrété par la direction d'ABI avec l'aval de Rio Tinto et Alcoa. « C'est un geste cavalier. Nous venions de tendre la main pour négocier. Plutôt que de retourner à la table de négociation, ABI va plus loin dans sa tentative de coup de force en déclenchant un lock-out sans avertissement en plein milieu de la nuit », a commenté le président syndical Clément Masse. Le temps va vite, il nous reste une demi-heure à passer ensemble à l'émission Le quotidien des quotidiens avec les actualités culturelles et la section Sujets libres. À tout de suite.